Alors, je vous invite à tourner avec nous dans le livre des Actes, s'il vous plaît. Chapitre 14. Actes 14, 26, nous allons être dans le même passage qu'il y a deux semaines. Et on va lire un petit peu plus loin. Alors, Actes 14, 26, Esther va nous lire un long passage, tourner avec nous. On va se courber ensemble dans un mot de prière avant de lire la parole de Dieu. Père éternel, nous sommes assemblés devant toi, Seigneur, pour entendre ta parole. Seigneur, cette parole est sainte, elle a été inspirée par ton esprit, Seigneur. Nous croyons en toi et nous croyons qu'elle vient de toi. Alors je te prie tout simplement de venir l'appliquer dans nos vies personnellement, individuellement, Seigneur. Parle à celui qui ne te connaît pas, qui est au milieu de nous, pour qui ces choses-là sont étrangères parce qu'elles ne résonnent pas dans son cœur. Ce matin, Père, attire-le à toi, qu'elle commence à résonner en lui, Seigneur, et à l'attirer à toi. Sois avec chacun d'entre nous qui te connaissons personnellement, Seigneur. Aide-nous à saisir ce qu'est l'Église, saisir le regard que nous sommes appelés à déposer les uns sur les autres. Comprendre, Seigneur, la dynamique de la vie de l'Église, Seigneur, à travers ce merveilleux passage. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. On va écouter la parole de Dieu, Actes 14, 26.
De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés ». Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait.
Merci, chérie. On ne lira pas jusqu'à l'autre bout, je vais faire référence tout à l'heure. Naturellement, l'être humain construit des murs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Naturellement, l'être humain a cette tendance à construire des murs les uns entre les autres. C'est ce qu'on fait naturellement. Avec toutes sortes d'appellations. Parfois, ça va être au nom des distinctions de génération. Nous construisons des murs entre nous qui sont justifiés par le fait que ça, c'est un vieux, ça, c'est un jeune. Il n'y a pas de relation entre les deux. On construit des murs. On construit des murs avec nos statuts sociaux. Lui ne vient pas de mon milieu, il ne parle pas mon langage, il ne peut pas comprendre ce que je suis. Il est méprisable parce qu'il n'a pas mon standing et nous construisons des murs les uns à l'égard des autres. Nous construisons des murs par nos comportements, nos agissements les uns envers les autres qui parfois vont manquer de charité, de grâce, de douceur. Nous construisons des murs les uns entre les autres naturellement. Ça vient avec cet égoïsme qu'on a hérité du péché. Notre nature pécheresse nous pousse à monter des murs et à mettre les gens autour de nous dans différentes cases, dans différentes boîtes. Et la question que je me pose lorsque je regarde quelqu'un, c'est est-ce qu'il entre dans ma case ou est-ce qu'il appartient à une autre case? Est-ce qu'il est de mon côté du mur ou est-ce qu'il habite de l'autre côté de ce mur qui définit ceux qui font partie de ma gang, de ma tribu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On fonctionne comme ça. On voudrait même se faire croire comme société que nous sommes une société ouverte qui fait tomber les murs. Nous sommes une société tolérante. Mais même dans cette tolérance-là, il y a une profonde intolérance à tout ce qui n'est pas au goût du jour. Vous avez qu'à afficher certaines de vos convictions pour découvrir que des murs sont construits au nom de la tolérance. Parce que vous ne tolérez pas les mêmes choses. Et eux sont intolérants envers vous. Naturellement, l'être humain construit des murs. Et ce qui est extraordinaire avec l'Église de Jésus-Christ, c'est que ce qui nous unit ensemble, c'est la grâce. C'est la grâce qui nous unit et c'est la grâce qui fait tomber les murs. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu s'est donné un peuple nouveau. On a commencé à voir ça il y a 2 semaines. Ce peuple nouveau, Dieu se l'est racheté, Dieu se l'est acquis, Dieu se l'est donné par un acte de grâce pur et simple. Il n'y a pas d'autre manière que d'entrer dans cette communauté-là que par la grâce. Il n'y a pas de code à adopter, il n'y a pas de style à adopter, il n'y a pas un style chrétien dans lequel il faut entrer pour pouvoir entrer dans la communauté de la grâce. Autrement, ce n'est plus la grâce. Et c'est cette grâce-là qui nous unit ensemble, et c'est cette grâce-là qui instruit nos relations les uns avec les autres, nos rapports les uns aux autres. Et c'est dans la manifestation de cette grâce-là, au milieu de nous, dans nos rapports les uns avec les autres, que ceux qui n'ont pas encore connu cette grâce vont savoir que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Amen. Cette grâce nous instruit dans nos rapports les uns avec les autres. Deux éléments que je veux souligner ce matin. Il y a de la place pour tout le monde dans la communauté de la grâce et il y a de la place pour plus de grâce encore. Je vais m'expliquer tantôt. Dieu nous appelle de partout, de tous les styles, de toutes les cultures, de tous les groupes ethniques, de tous les statuts sociaux. Et Dieu nous rassemble ensemble ici autour d'une personne, Jésus-Christ, de tous les styles, de tous les genres. Lorsque nous regardons les gens autour de nous dans l'Église, nous sommes appelés à la lumière de ce passage-là à regarder les gens autour de nous avec les yeux de l'apôtre Pierre. Regardez avec moi ce que Pierre a dit au chapitre 15, verset 11. Alors qu'il est en train de se pencher sur cette question parce que vous avez ces communautés-là, il y a un choc culturel énorme qui est en train de se produire au milieu de cette communauté parce que vous avez ceux qui viennent de cet héritage juif qui ont appris à vivre dans une certaine sainteté avec un code de vie, avec des lois, qui viennent en contact avec ceux qu'ils s'appliquent à éviter depuis des siècles. Ils vivaient au milieu d'eux, mais à l'écart d'eux, avec des murs énormes qui les séparaient. Et tout d'un coup, Dieu dit non, ces murs-là tombent. Et donc, dans l'Église, on va trouver ce choc-là des cultures. Et Pierre dit au verset 11, acte 15, 11, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Voici les yeux avec lesquels nous sommes appelés à regarder toute personne qui a connu la grâce de Jésus-Christ. Pierre avait été éduqué dans toute la culture juive avec les lois de l'Ancien Testament et donc on lui avait appris, on lui avait enseigné à discerner ceux qui étaient de son côté du mur de ceux qui étaient de l'autre côté du mur. Et tout ça se décodait par un code vestimentaire, un code de conduite, un code culturel. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu dis? Et avec tout ça, je vais pouvoir déterminer si tu fais partie des saints ou des impurs. Et dans un sens, c'était juste, très juste, parce qu'Israël était le peuple choisi de Dieu. Mais voilà qu'à cause de Christ, celui qui était l'autre fait partie de ma famille maintenant. Et donc, ce que Pierre dit ici, c'est que les lunettes avec lesquelles je vais apprendre à regarder l'autre, ce sont les lunettes de la grâce. Ainsi, lorsque Pierre regardait un païen, parce qu'il les appelait des païens, lorsque Pierre regardait un païen qui avait connu Jésus-Christ, ce qu'il voyait maintenant, ce ne sont pas toutes les différences qui pouvaient construire ces murs-là, ce ne sont pas toutes ces différences qui le divisaient de l'autre, mais ce qu'il voyait à travers ces lunettes-là, c'est ce qu'il y a de plus de fondamental pour un être humain, ce qu'il y a de plus précieux pour un être humain, et ce qui les unissait, c'est la grâce de Jésus-Christ dans sa vie. Regardez les gens autour de vous ce matin. Prenez le temps de regarder qui est assis autour de vous. Vous les connaissez peut-être pas. Là. C'est qui est autour de vous? Est-ce qu'ils rentrent dans votre code, ces gens-là? Regardez-les. Est-ce qu'ils sont de votre culture? Est-ce qu'ils sont de votre groupe ethnique? Ils viennent d'où? Bon, ceux qui sont autour de Gérard, soyez patients, s'il vous plaît. Mais regardez les gens autour de vous. Avec quels yeux est-ce que vous les voyez quand vous les croisez lorsque vous arrivez ici? C'est quoi votre regard? Il y a des jeunes, il y a des vieux ici. Hein? On n'écoute pas la même musique, hein? Non, on n'écoute pas la même musique, puis chaque part entre les deux, fait que j'écoute un peu de n'importe quoi, mais c'est clair que j'écoute pas la même musique ni à leur égard, ni à leur égard. Quand vous arrivez ici, puis vous voyez des jeunes, puis vous voyez du monde qui ne s'habille pas comme vous, est-ce que ce que vous voyez, c'est tout ce qui construit cette distance, code vestimentaire, code, la manière de parler, comment est-ce que je me comporte? C'est un vieux. Donc, c'est l'autre. Non, mais c'est un jeune. Ah, c'est la nouvelle génération, ceux qui détruisent leur vie devant des écrans cathodiques. C'est l'autre. Est-ce que c'est ça que tu vois en premier quand tu vois le jeune, quand tu vois le vieux, quand tu vois celui qui est d'une autre couleur, celui qui est d'une autre culture? J'ai essayé de parler avec eux, mais ça ne connecte pas. Ils parlent un autre langage, ils pensent autrement. Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux quand tu regardes les gens autour de toi quand tu arrives à l'église? Ce que Pierre nous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous unit que tout ce qui nous différencie. Amen. Beaucoup plus fondamental. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux pour l'être humain que d'avoir connu la personne de Jésus-Christ, de savoir que je suis un être pécheur qui a été gracié? Rien de plus précieux que ça. Quand tu saisis ça, et si tu ne connais pas la grâce de Christ, tu te dis, mais de quoi parle un matin, ce gars-là. Mais ça change complètement ma manière de regarder l'autre, voyez-vous? Parce que ce que je vois, c'est quelqu'un qui est profondément comme moi. Dans ce qu'il y a de plus cher, de plus fondamental à sa personne, il est comme moi. Elle est comme moi. Un pécheur. Quelqu'un qui lutte avec le désir de faire le bien, puis trop souvent est déçu de lui-même en faisant le mal. Et qui a connu la grâce à travers Jésus-Christ d'être accueilli, d'être adopté dans une famille. Ce que je vois donc, c'est mon frère, ma sœur d'adoption. Et comme moi, un étranger qui n'est plus un étranger maintenant, parce que je fais partie de la famille de Dieu. C'est ça que Pierre est en train de dire ici. C'est vraiment ça que Pierre est en train de dire ici. Est-ce que c'est comme ça que vous regardez les gens autour de vous, dans l'Église? Ou est-ce que vous dites, je ne me reconnais plus dans cette église-là parce qu'elle a tellement changé, c'est la nouvelle génération, je ne la comprends pas, je ne comprends pas ces gens-là, l'église change, les cultures changent, je ne me retrouve plus dans ça. Et pourtant, ce qui te définit dans ce que tu as de plus précieux comme être humain, tous les gens ici qui ont cru en Jésus-Christ ont ceci en commun avec toi. Il y a quelque chose de plus grand et de plus profond qui t'unit. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, à chaque personne ici qui a cru en Jésus, que ce qui vous différencie. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que c'est théorique tout ça? Ou est-ce que c'est là dans le cœur? Parce que voyez-vous, il va falloir que ça rentre dans le cœur de l'Église ici. Il va falloir que ça rentre dans le cœur de l'Église ici. Parce qu'on arrive à ce moment où on va devoir faire un choix. L'Évangile est en train de pénétrer différentes cultures. L'Évangile a pénétré la culture juive et a atteint les Juifs, mais tous n'ont pas cru, mais il y en a beaucoup qui ont cru quand même. Puis là, l'Évangile commence à se répandre ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a un choc culturel qui se présente là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va fonder des églises juives, on va fonder des églises de païens. Puis parmi les païens, Dieu sait qu'il y a une multitude de cultures aussi. Alors on va fonder une église de ceux qui viennent de là, puis ceux qui viennent de là, puis ceux qui ont telle culture. Afin de trouver assez de dénominateurs communs pour qu'on puisse être heureux ensemble. C'est ça? Puis après ça, on va aller annoncer l'Évangile. Après ça, on va aller annoncer l'Évangile. L'Évangile est cette puissance qui nous transforme profondément, qui nous enseigne l'humilité et l'amour de notre prochain. C'est pourquoi je m'assemble avec des gens qui me ressemblent. C'est ça? J'ai toujours eu une difficulté avec cette idée d'avoir des églises qui sont là pour une génération. Je comprends que tu te mets à parler vite le langage de cette génération-là, dans la musique, dans la manière de parler, dans le style d'être, tout ça. Je comprends tout ça, mais quelque chose de fondateur, de fondamental à l'Évangile qui n'est pas transmis à travers ce processus-là. Parce que si l'Église locale n'est pas la famille de toutes les cultures, de toutes les générations, l'Évangile n'est pas prêché dans toute sa puissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose de l'Évangile que je suis en train de réduire. Finalement, l'Évangile est suffisant pour unir des gens qui se ressemblent. C'est pas vrai, ça. L'Évangile est puissant pour unir des gens qui se ressemblent, oui, dans le fait qu'ils sont des pécheurs graciés. Nous formons la communauté de la grâce. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est la communauté de la grâce. Et ces murs qui existent entre nous, qui existaient entre nous, sont détruits, sont renversés par la puissance de l'Évangile. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit au chapitre 2, versets 11 à 14, « C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Il y avait un mur qui vous gardait à l'extérieur. » Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, parce que les dieux que vous croyez, c'était simplement des idoles. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. L'Évangile fait tomber les murs qui nous séparent, construisant la communauté de la grâce. Et c'est avec ces yeux-là que nous devons apprendre à nous regarder les uns les autres. C'est à ce prix-là que l'Évangile va briller au milieu de nous. Et c'est en vivant cela quotidiennement dans nos familles, dans nos foyers, dans les rapports entre des adolescents puis des parents, entre des générations qui se distinguent, dans nos rapports, dans notre service ensemble avec des gens qui semblent parler deux langages différents. C'est à ce prix-là que l'Évangile va être manifeste aux yeux des gens du dehors. Parce qu'ils vont dire, ces gens-là sont des disciples de Jésus-Christ. Le Jésus accueillant que je découvre dans les évangiles, celui qui va vers le pécheur, celui qui va vers le lépreux, celui qui va vers la femme prostituée, celui qui va vers tous ces gens-là, il est là en esprit dans cette communauté-là. Je l'ai rencontré, il est encore vivant. Il manifeste dans leur rapport les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre relation avec la sainteté? Parce que depuis tout à l'heure, je parle de la communauté de la grâce et je dis qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de conduite, il n'y a pas de culture particulière, il n'y a pas le style chrétien, comme j'ai dit il y a deux semaines, il y a le style Jésus. Où est-ce qu'on place cette notion de sainteté-là? Mais voyez-vous, ce qui nous est dit ici, encore une fois l'apôtre Pierre qui dit ça au verset 8, il dit « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Si nous sommes unis par la grâce, c'est parce que nous avons été graciés et cela signifie que notre cœur a été purifié par le sacrifice de Jésus-Christ. Un cœur nouveau nous a été donné et ce cœur-là bat au rythme du cœur de Dieu. Depuis que j'ai connu Jésus-Christ, mon cœur de pécheur a été lavé par le sang de Christ et mon bonheur se trouve non plus à suivre mes passions, mes vices, mais à chercher à adopter le style Jésus. Je lis les évangiles, puis je vois Jésus qui était un bon samaritain lui-même. Je vois Jésus qui était patient. Je vois Jésus qui pardonnait. Je vois Jésus qui ne se laissait pas tenter par le diable qui vient, qui veut l'attirer loin de Dieu. Je vois cette sainteté-là, mais c'est une sainteté qui n'est pas légaliste. C'est une sainteté qui est remplie d'amour, de grâce, de compassion, de miséricorde. Cette sainteté est définie par toutes ces vertus-là. Pas par un code de conduite, pas par une loi. mais par une grâce opérante qui fait que mon cœur désire la sainteté de Dieu. Alors, bien sûr, nous sommes différents de ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Et en fait, pour celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, nous serons à la fois un parfum de bonne odeur, parce qu'ils vont dire, wow! Il y a quelque chose de particulier dans cette famille-là. Il y a quelque chose de particulier dans ce couple-là. Quelque chose de particulier dans ce petit groupe, dans cette communauté-là. Et en même temps, un parfum de mauvaise odeur. Parce que notre poursuite de sainteté devient une espèce de jugement insupportable, une espèce de fardeau. Oh, vous êtes tellement parfait, vous autres, les chrétiens. On le vit dans nos familles, c'est vrai. Quand nos enfants ont des choix à faire par rapport à l'Évangile, oh, des fois, c'est nos péchés qui nous rendent insupportables, avouons-le. Mais parfois aussi, c'est cette passion, ce désir pour être comme Jésus qui devient insupportable à nos proches. Parce que nos cœurs aspirent à cette sainteté-là, c'est vrai. Alors, nous sommes différents, c'est vrai. Mais ce n'est pas la loi qui nous définit. J'irais même jusqu'à dire que ce qui nous unit et nous rassemble, ce n'est pas la sainteté. Nous sommes semblables en ce que nous poursuivons la sainteté. Mais ce n'est pas la sainteté qui nous rend semblables. Parce que nous luttons tous avec le péché de toutes sortes de manières. On est tous rendus plus ou moins loin dans notre sanctification. Il y en a qui se traînent de manière lamentable, qui arrivent juste à se traîner ici le dimanche matin, puis toute la semaine, c'est n'importe quoi comme vie chrétienne. Et il y en a d'autres qui sont là, puis « Oh, moi je m'en viens adorer le Seigneur, puis dimanche matin, toute ma louange, c'est juste le débordement de ma semaine. » Il y en a d'autres qui entendent ça, puis qui disent « Ouais, ça se peut même pas cette affaire-là. » Ils ne sont pas là encore. Voyez-vous, ce n'est pas la sainteté qui nous unit. Oui, le désir de sainteté, mais c'est la grâce qui nous unit. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et ce que ça veut dire, c'est que cette grâce-là que Dieu a manifestée envers nous doit nous instruire sur notre manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Cette grâce que Dieu a manifestée envers moi, je vais la manifester envers l'autre. Elle va m'instruire dans mon rapport avec l'autre. Dans ce passage-là, il y a quelque chose de phénoménal qui se passe et je ne pourrais pas aller dans tous les détails ce matin, mais c'est vraiment exceptionnel ce qui est en train de se passer. Si vous pouvez un tout petit peu placer ça dans un contexte contemporain où on a eu toutes sortes de discussions au niveau provincial, on entend des questions d'intégration, d'assimilation, puis toutes ces questions-là. Écoutez, vous êtes dans l'Église, vous avez les Juifs qui vont être là avec les païens qui doivent vivre ensemble. Vous avez le potentiel parfait d'une explosion incroyable où la belle histoire de Acte 4, de Acte 6, Kumbaya Seigneur autour du feu, c'est fini cette affaire-là. Ça va exploser. Mais parce que c'est la grâce qui dicte les relations, on arrive devant une question théologique énorme. L'enjeu théologique est absolument énorme. On est en train de discuter, est-ce que les païens qui croient en Jésus, qui ont été sauvés par grâce, doivent retourner sous la loi de l'Ancien Testament pour s'assurer leur salut? Ou est-ce que la grâce est suffisante? C'est un enjeu sur pourquoi est-ce que les Juifs continueraient à pratiquer certaines lois? Est-ce qu'ils doivent le faire pour être sauvés ou pour honorer leur héritage et tout le symbolisme attaché à l'Évangile derrière ça? L'enjeu est énorme. Alors, le débat est soulevé sur le champ missionnaire parce que c'est là que ça se passe. Puis là, les missionnaires qui sont là disent « Oh boy, je suis pas sûr, les gars, qu'on va être responsable de prendre cette décision-là tout seul. On descend à Jérusalem. » On va aller discuter ensemble. Ils descendent à Jérusalem et la discussion se passe avec les apôtres, avec les anciens, mais même avec l'Église qui est là, parce que l'Église va venir donner son assentiment à cette question-là. Dans le simple processus décisionnel qui se prend là, et je crois que c'est un moment unique dans l'histoire qui ne se répète pas, je ne pense pas qu'on décide de nouveaux enjeux théologiques en assemblée. Le consensus qui va sortir ici va nous permettre de redéfinir des choses. Je pense que c'est un moment unique, mais la grâce qui manifeste là est un exemple pour nous dans nos relations ensemble. Moi, si j'avais été un conseiller pour les apôtres là-dessus, lorsque Paul et Barnabas arrivent et qu'on voit qu'il commence à y avoir des divisions, personnellement, mon réflexe naturel, ça aurait été de dire, OK, les boys, ça, c'est une histoire d'apôtres. question d'apôtre. On s'entend? Ça sort pas d'ici. Les gars, venez-vous-en tout de suite. Meeting, on demande à l'Église de prier pour nous. Cette décision-là doit se prendre ensemble. C'est nous qui avons connu Jésus. C'est nous qui avons entendu ses enseignements. C'est nous qui avons ce dépôt-là. C'est nous qui sommes responsables de le transmettre, ce dépôt-là. On va aller régler ça entre apôtres, les boys. C'est bon? Étrangement, c'est pas ça qui se passe. Je veux dire, les gars veulent vraiment mettre la pagaille dans l'Église. Il y a des églises qui se divisent pour décider la couleur du tapis, là, on s'entend? Fait qu'une question comme celle-là, je sais pas si vraiment tu veux discuter ça avec plein de monde, puis dire, puis l'Église, qu'est-ce que vous en pensez? On est-tu dedans ou on n'est pas dedans? Je sais pas. Et la manifestation de la grâce de Dieu est là, parce que Dieu avait promis qu'un cœur nouveau serait donné, que son esprit serait là. C'est ce cœur-là, ce cœur régénéré par l'Esprit Saint, qui deviendrait lui-même un enseignant. Et donc, il y a cette confiance de dire, même dans la grande assemblée, ceux qui n'ont pas marché avec Jésus, qui n'ont pas eu tous les enseignements, si on est dedans, si on a bien compris la direction que Dieu est en train de donner, cela va résonner en eux parce que la grâce est présente dans leur cœur et ils vont voir que la décision que nous sommes en train de prendre, la direction que nous sommes en train de donner est conforme à la grâce de Dieu révélée dans sa parole. C'est comme ça que je comprends ce qui se passe là. Et donc les apôtres, les anciens vont discuter ensemble, oui c'est vrai, mais à un certain moment quand tu lis le récit, tu réalises que wow, attends un peu, toute l'Église est rendue là maintenant. Combien de jours, combien d'heures, combien de meetings, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à un certain moment donné, toute l'Église est là. Est en train d'assister à ça. Et lorsqu'ils écrivent la lettre, bien, ce n'est pas écrit, écoutez, on sait que ça va causer des divisions partout dans les églises. Le sceau des apôtres est là-dessus, on vous le dit. Décision apostolique, les copains. Soumettez-vous, nous étions avec Jésus. C'est pas comme ça que ça se passe. Il parut bon aux apôtres, aux anciens et à l'Église. Oh. Et ceci est en train de parler de nos relations les uns avec les autres. Nos rapports les uns avec les autres. Lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est en train de servir dans un ministère ensemble. Bien sûr, il y a des responsables, bien sûr, il y a des gens qui prennent des décisions, il y a tout ça. C'est vrai. Il y a des gens qui sont responsables de donner une direction dans un ministère, dans une église. C'est vrai. Mais ce qui va venir instruire nos rapports, notre écoute, notre attention à l'autre, c'est la grâce. Cette grâce-là se manifeste d'une deuxième manière dans ce passage. Et là, c'est un peu plus subtil ce qui se passe ici. Dans la directive qui va être donnée aux païens. Si vous regardez avec moi au verset 20, voici la recommandation de Jacques et c'est celle qui va être adoptée. Mais qu'on leur prescrive de s'abstenir des souillures des idoles. Et c'est probablement qu'il est en train de faire allusion justement à ce qui a été souillé par le culte aux idoles, possiblement les viandes sacrifiées aux idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Bon, je veux dire, s'il avait simplement dit qu'ils s'abstiennent des cultes idolâtres et qu'ils s'abstiennent de la débauche, ça rentre. Si vous connaissez bien le Nouveau Testament, si vous connaissez Dieu moindrement, vous savez qu'on n'est pas appelé à vivre dans la débauche, ça va. Mais pourquoi cette question-là de sang puis d'animaux étouffés qui nous ramène vers les rituels? Est-ce que la réponse de l'Église, c'est de dire aux païens, vous êtes sous la grâce, vous n'avez pas observé tout l'Ancien Testament, mais nous allons vous imposer quelques lois? Ça, c'est le minimum, par exemple. La grâce, plus un petit minimum. On va s'entendre là-dessus, on négocie ça pour ça. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer ici? C'est pas ma compréhension du texte du tout. C'est pas ma compréhension du texte. Ce que je vois ici, c'est que l'Église est en train d'identifier ce qui entourait particulièrement les cultes idolâtres. Parce que tout ce qui est mentionné là était connu communément associé à ces cultes-là idolâtres. Et donc l'Église est en train de dire, ce qu'on vous demande, c'est de manifester d'une manière évidente par votre vie que vous vous détachez de cela. Et que vos frères, qui eux sont d'arrière-plan juif, voient de manière manifeste que vous êtes sortis du milieu d'eux. Vous n'appartenez plus à eux. Après, sur les questions éthiques, il va y en avoir plein d'implications éthiques. Pas juste la débauche, il va y en avoir plein d'autres. Parce que nous poursuivons la sainteté. Et je crois donc que dans cette directive-là, il y avait quelque chose pour exhorter les païens à vraiment changer de style de vie pour dire « Je me détache de tous ces cultes idolâtres-là pour vivre une vie nouvelle maintenant. » Je crois que c'est ça qui était présent. Et je vois une sensibilité à l'égard des Juifs aussi qui y avaient cru pour dire « Oui, ils vont marquer de manière définitive leur changement de vie. » Et c'est important que ce soit là. Parce que comprenez, frères et sœurs qui venaient d'une culture païenne, que vous avez beau vous avoir plein de facilité avec des trucs comme ça, puis juste avoir renoncé à ces trucs-là dans votre cœur, il faut qu'on voit le changement de vie. Et je crois vraiment qu'il y a une sensibilité qui est là. Autrement, c'est difficile de comprendre qu'un tout petit peu plus loin dans le passage, quand Paul va décider d'inviter Timothée à entrer dans le ministère avec lui, mais Timothée avait un héritage particulier, sa mère était juive, son père était grec. On a l'impression que son père était décédé à l'époque où Paul va le prendre sous son aile pour qu'il devienne son compagnon d'œuvre. Mais par conséquent, probablement que le père s'était opposé à sa circoncision lorsqu'il était enfant. Et Paul, pour simplifier son ministère auprès des Juifs, dit « Regarde Timothée, vas-y. Va chez le chirurgien, on va régler ça. Là. On va s'ouvrir des portes pour l'Évangile. Attends un peu, là, c'est pas toi qui viens de résister à cette idée qu'il faut mettre la loi pour pouvoir être sauvé, puis tu veux demander finalement à Timothée à retourner sous la loi? » Non, il est en train de dire à Timothée, « On va se faire tout à tous, mon ami. On va se faire tout à tous. » Dans 1 Corinthiens, lorsqu'il va traiter la question des viandes sacrifiées aux idoles, bien Paul va dire, « Regarde, c'est pas vraiment important de savoir si ça a été sacrifié ou non aux idoles. C'est de la viande, on s'entend? C'est de la viande. Mais si tu es au marché en train de magasiner un frère dans la foi, puis qu'à un moment donné, il fait un commentaire, puis il dit, « Ouais, tu sais que ça a été sacrifié aux idoles. Achète-en pas. » Par motif de conscience, par amour pour ton frère, touche pas à ça, man. C'est pas que c'est fondamentalement mal, mais dans son cœur, tu pourrais être une pierre d'achoppement pour lui. Et si ce frère-là venait à me dire, mais tu comprends que quelqu'un qui mangerait ça n'est pas chrétien? Oh. Là, je pense que Paul fait un pas en arrière et il dit, attends un peu, on va aller étudier l'Évangile ensemble, on est sauvés par grâce. Mais si dans ton cœur, pour toi, c'est une pierre d'achoppement, sois assuré que ça va me faire un grand plaisir de m'en abstenir. Alors, voyez-vous, cette grâce-là vient même instruire les choix que nous allons faire dans nos comportements les uns avec les autres. Si un frère veut me dire qu'il faut observer ces lois-là pour être sauvé, je vais le conduire vers l'Évangile. Je vais lui dire, attends un peu, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi dans l'Évangile ici qui est fondamental. Mais si un frère est mal à l'aise, si une sœur est mal à l'aise avec telle ou telle chose, et que ce n'est pas par légalisme, mais dans sa conscience pour elle, elle n'est pas à l'aise avec ça. Cela va instruire mon comportement envers lui, envers elle. La grâce va venir dicter même mes décisions personnelles, mes choix. Et cette grâce-là doit être manifeste, que ce soit dans nos rapports, comme on l'a vu dans la prise de décision, où ceux qui sont en autorité sont aussi des serviteurs et écoutent l'Esprit qui est en chacun d'eux. Ou que ce soit dans ce que je vais décider de faire ou ne pas faire pour ne pas être une pierre d'achoppement pour une frère ou un sœur ou une sœur. Ça doit être manifeste, cette grâce-là, dans nos rapports les uns avec les autres. Ça veut dire la manière que tu regardes ton épouse, mon frère. Quand tu la regardes, qu'est-ce que tu vois? Le mur que le péché veut construire entre toi et elle? Est-ce que c'est ça que tu vois? Ou est-ce que tu la regardes avec les yeux de la grâce? Et tu vois quelqu'un qui a été sauvé par grâce, pareil comme toi. Est-ce que tu la vois comme quelqu'un qui est plus semblable à toi que différente? Parce que fondamentalement identique à toi à cause de sa foi en Jésus-Christ. Les parents, les jeunes, qu'est-ce que vous voyez quand vous vous regardez? Des distinctions qui font qu'il n'y a pas moyen de connecter parce qu'on a été élevé dans des univers et des époques différents. Tu ne comprends pas mon univers intérieur. Je ne peux pas comprendre le tien. On ne peut pas connecter ensemble. La grâce nous instruit à aller l'un vers l'autre. La grâce nous instruit comme parents dans notre rapport avec notre enfant à ne pas irriter notre enfant en abusant de notre autorité, en se cachant derrière cette autorité-là, mais comme les apôtres. En étant bien conscient de mes responsabilités, je suis un serviteur à travers tout ça. La grâce vient m'instruire. La grâce va nous instruire dans nos services, dans notre service pour le Seigneur les uns avec les autres. Parce qu'elle va dicter mon attitude lorsque je vais vers l'autre que je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Mais fondamentalement, ce que je décide de reconnaître en lui ou en elle, C'est cette personne qui a été graciée par Jésus-Christ. Et je décide de la servir comme quelqu'un qui est co-héritier avec moi de la grâce, quelqu'un à honorer, à chérir. Et s'il faut que je renonce à certaines choses, je ne le ferai pas par légalisme. Je vais le faire par amour, parce que la grâce m'instruit dans l'amour. Dans le livre des Actes, on arrive à un troisième moment fort où Luc nous montre la communauté de la grâce. Il l'a fait dans Actes 4, lorsque les gens de la ville autour voyaient tellement d'amour dans leurs rapports les uns avec les autres qu'ils n'en revenaient pas. Il l'a fait dans Actes 6, lorsqu'il y avait un potentiel de division entre juifs, juifs d'héritage hébraïque, puis ceux qui venaient plus de la diaspora, et déjà, il y avait un potentiel de division. Et encore une fois, l'Évangile de Jésus-Christ a permis de surmonter cette épreuve-là. Et on arrive à ce moment-ci, qui est selon moi le moment le plus important. Parce que là, ça va être le choc des cultures extrêmes. Et encore une fois, la grâce de Jésus-Christ, l'Évangile de Jésus-Christ, est le facteur unificateur qui vient faire toute la différence. Et qui va faire que cette communauté-là va devenir un témoignage extraordinaire dans l'Empire romain. Parce que dans l'Église, esclave et propriétaire, riche et pauvre, hommes et femmes, gens de toute culture, de toute couleur, vont se réunir ensemble autour d'une personne, la personne de Jésus-Christ, pour fonder des communautés de la grâce. Frères et sœurs, on a besoin de méditer sur ces choses-là. Afin que lorsqu'on arrive ici le dimanche matin, ce qu'on voit, c'est des gens qui nous ressemblent beaucoup plus qu'ils nous distinguent. Afin que ça nous pousse à dire, hey, viens manger chez nous, je ne te connais pas, mais je connais la chose la plus importante de toi. Tu connais Jésus-Christ. J'ai besoin d'entendre ton histoire. Parce qu'on se ressemble beaucoup plus que tu le penses. On va prier ensemble. Père éternel, je veux te remercier pour ton amour pour moi. Ton amour t'a poussé, Seigneur, à m'adopter. Moi qui n'étais pas de cette merveilleuse famille, Seigneur, moi qui étais un pécheur, errant, Seigneur, parce que j'étais sans toi, sans ta famille. Tu m'as attiré à Christ et j'ai connu en Jésus-Christ ta grâce, Seigneur, ton pardon. Père, je veux t'adorer. Tu es si bon. Tu as fait de moi ton enfant chéri, ton fils, ta fille. Tu m'as sorti du milieu des gens qui ne te connaissaient pas et tu m'as donné une maison. Et tu m'as donné dans cette église des centaines de frères et sœurs qui me ressemble tellement, Seigneur. Père, je veux te prier ce matin pour nos relations les uns avec les autres. Nos relations dans le service. Nos relations avec un frère, une sœur qu'on a de la difficulté à accepter, à aimer, à chérir. Et à l'égard de qui on a laissé un mur se construire qui nous sépare. Je veux te prier, Seigneur, pour ces foyers chrétiens où un mur s'est bâti entre époux et épouse, entre enfants et parents, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, la puissance de ton évangile fait tomber les murs. Et Seigneur, alors que depuis quelques années, nous accueillons dans notre famille ici tellement de gens qui viennent de partout sur la terre, avec toutes sortes de cultures, Seigneur, que la grâce de ton évangile ne permette jamais qu'aucun mur ne se construise entre nous, Seigneur. Et que tout cela, Seigneur, ne soit pas qu'un discours qu'un visiteur entendrait dans la bouche d'un prédicateur un dimanche matin, Seigneur. Mais que la puissance de ton évangile, Seigneur, soit manifeste dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans le regard que nous déposons l'un sur l'autre, dans nos relations les uns avec les autres. Nous t'aimons, Jésus, et nous sommes assemblés autour de toi pour t'adorer. Amen.